Soyez les bienvenus sur Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 24 juin. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le réquisitoire dans le procès du Mediator. Des amendes pour un montant total de plus de 9 millions d'euros et 3 ans de prison ferme requis à l'encontre de l'ex numéro 2 du groupe Servier. Sanctionné aussi l'agence de sécurité du médicament. Elle est accusée d'avoir ignoré les alertes. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Un vrai statut de directeur d'école pour tenter de soutenir une profession épuisée. Donald Trump de retour au pied du mur pour relancer sa campagne. Des habitants excédés par ces terrasses qui débordent dans les rues des grandes villes. Et le calme des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle désertés pour cause de Covid.
Les invités de France Inter
oui,
ce matin à 7h50. Une Léa Salamé un peu excitée aujourd'hui.
Mais oui, parce qu'on reçoit l'un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus doués de sa génération. Il sort un nouvel album. Encensé par la critique qui va de Télérama aux Échos, comme quoi on est très heureux de se réveiller ce matin avec Benjamin Biolay en studio qui lui-même s'est réveillé pour l'occasion.
Ça va bien se passer à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale. Autre registre, nous recevons l'historien, très excité personnellement, et maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne. J'ai nommé Nicolas Offenstadt. Vos questions dès maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. Sinistre Paris, choix cynique, intérêt financier. Le parquet de Paris a eu des mots très durs hier à l'encontre des laboratoires Servier, évoquant dans son réquisitoire des manipulations, dissimulations et autres manœuvres pour maintenir coûte que coûte un médicament remboursé par la Sécurité sociale. Un antidiabétique utilisé comme coupe-faim est responsable de la mort de centaines de personnes. Corinne Audouin.
Pour la procureure, Servier a fait œuvre d'une grande créativité dans l'art de l'enfumage. La représentante de l'accusation pointe les manœuvres, les stratagèmes du laboratoire qui a fait, dit-elle, délibérément le choix cynique de ne pas tenir compte des risques liés à la prise de Mediator. Pour avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché de manière trompeuse, en cachant la nature du médicament, pour n'avoir pas informé patients et médecins, pour avoir caché les risques aux autorités, le parquet demande contre l'ensemble des sociétés du groupe plus de 9 millions d'euros d'amende. En revanche, la procureure n'a pas demandé d'interdiction d'exercer pour Servier pour ne pas sanctionner ses salariés. Contre l'agence du médicament, à qui il est reproché sa négligence dans la surveillance du Mediator, le parquet demande 200 000 euros d'amende. Enfin, symboliquement, la peine la plus lourde, ce sont 3 ans de prison ferme requis contre l'ex numéro 2 du groupe. Jean-Philippe Seta avait reconnu à la barre une erreur d'appréciation sur la dangerosité du Mediator, mais écarter toute faute intentionnelle.
Ce procès de plusieurs mois a été suivi avec attention par Lisa Boussineau, dont la mère a succombé à des problèmes cardiaques provoqués par la prise du Mediator. Lisa Boussineau, jointe hier par Thibaut Cavaillès et qui exprime sa déception face à un réquisitoire qu'elle estime trop clément.
Je suis assez déçue, j'estime que les réquisitions sont pas à la hauteur de la gravité de l'infraction et des préjudices qui ont été subis. J'estime que le signal qui est envoyé, il est très mauvais. Le message envoyé, c'est voilà ce que ça coûte, une tromperie de grande ampleur. Soyez un opérateur économique, trompez les gens. Vous allez obtenir un bénéfice indu, mais vous inquiétez pas, vous allez le conserver. Voilà.
Qu'est-ce qui n'est pas suffisant à votre avis ? C'est la peine de prison ou l'amende ?
Alors écoutez, la peine d'emprisonnement, si elle était suivie, elle serait amplement méritée. J'estime que les peines d'amende qui ne sont pas montées à leur maximum, comme le prévoit le code pénal, c'est décevant. Et j'estime aussi que cette fameuse peine complémentaire qui est prévue par le code pénal, d'interdiction d'exercer en France pour les laboratoires Servier. Je pensais que cette peine serait requise par le parquet. J'espère qu'elle sera prononcée par le tribunal in fine.
Le réquisitoire qui se poursuit aujourd'hui dans le volet conflit d'intérêts de ce procès, qui doit s'achever le 6 juillet pour un jugement attendu en 2021. Justice encore avec cette note publiée hier par Mediapart, une note signée Emmanuel Macron, dédouanant son bras droit Alexis Colère, visé l'an dernier par une enquête pour prise illégale d'intérêts. Dans cette attestation, le chef de l'État assure qu'Alexis Colère n'est jamais intervenu dans les dossiers liés à l'armateur MSC, où travaillent plusieurs membres de sa famille. L'enquête a alors été classée sans suite, mais le parquet national financier doit maintenant s'expliquer. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h.
Il est 7h05, ils sont encore en première ligne, Agnès, dans la gestion de la crise sanitaire au sein de l'éducation nationale.
Les directrices et directeurs d'école sont au bord de l'épuisement professionnel en cette fin d'année, selon leur syndicat. On en parlait déjà cet automne avec le suicide de Christine Renon à Pantin. Pour tenter de leur venir en aide, des députés de La République En Marche ont déposé une proposition de loi dans le but de créer une vraie fonction de directeur d'école. Le texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Adjira Mohamed a rencontré une directrice en Seine-Saint-Denis qui, épuisée, a elle décidé de jeter l'éponge.
L'école, c'est presque toute la vie de Jeanne.
Je suis enseignante depuis 34 ans et directrice depuis 18 ans.
Et en arrêt de travail depuis 3 semaines, après une énième rentrée à organiser en quelques jours, elle a craqué.
Ça a été trop, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait que je me suis dit, mais là je peux plus aller travailler, je m'y retrouve pas. De faire et défaire du travail en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit c'est sans fin.
Mais même avant le coronavirus, ça n'allait plus, pas le temps, pas les moyens de faire.
On perd l'essence même de notre métier, c'est-à-dire notre métier c'est la pédagogie, c'est la réussite des élèves et on passe tellement de temps à remplir des tableaux, à répondre au téléphone, à faire mille et une choses qui nous dévient complètement de l'essence de notre métier, quoi. C'est les élèves.
Alors que les députés se penchent sur la question aujourd'hui, pourquoi pas, mais Jeanne attend des propositions concrètes et surtout elle aimerait qu'on arrête de taper, dit-elle, sur la profession.
Moi, en tant que directrice, je fais plus de 50 heures par semaine. Je pense que je mérite mon salaire, je mérite les vacances que j'ai. Enfin, c'est facile de casser du sucre sur notre dos. Moi, j'invite qui veut à venir passer une semaine dans une école, dans les classes, dans mon bureau. S'ils veulent, ils peuvent prendre ma place, il n'y a pas de problème.
Et si Jeanne revient dans son école en septembre, ce sera seulement comme enseignante. Pour la direction, elle a assez donné.
Ces jours de grève à BFM, RMC et tous les médias du groupe Next Radio TV pour protester contre le plan de suppression de plusieurs centaines d'emplois sous la forme, dans un premier temps, de départ volontaire. Transformation jugée nécessaire par les dirigeants. Le débat ce soir sur BFM TV et BFM Paris entre les trois candidates pour la mairie de Paris pourrait être annulé. Sauver l'emploi, c'est justement la priorité de l'exécutif. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour dévoiler les premiers arbitrages concernant le nouveau dispositif de chômage partiel, baptisé APLD, activité partielle de longue durée. L'État mettra la main à la poche en échange de l'engagement des entreprises à ne pas licencier. Et c'est pour relancer l'activité des bars et des restaurants stoppés net durant plus de 2 mois que l'extension des terrasses a été autorisée à Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Paris. Paris où il suffit aux propriétaires de faire une déclaration sur le site de la mairie pour créer de nouvelles places sur les trottoirs ou les parkings de livraison. Plus de 6700 déclarations à ce jour dans la capitale et des riverains excédés. Le reportage de Boris Allier.
Quelques palettes, une scie sauteuse, il n'en faut pas plus pour créer une terrasse.
C'est complètement système D, ouais.
Jean a installé 25 sièges supplémentaires sur cette place de livraison. Une terrasse rudimentaire, mais indispensable selon lui.
Ça nous permettra peut-être de finir l'année à zéro. Payer les loyers pendant les moments où on n'a pas pu exploiter, donc pendant vraiment les 2 mois de confinement, réussir à payer nos salaires, sera toujours ça de prix, quoi.
Mais pour les riverains, ces places sont synonymes de nuisance. Iris habite près de la place de la République à Paris.
On ne circule pas sur les trottoirs, on est complètement colonisé par le bruit, les odeurs, les incivilités. En fait, la vie n'est plus possible depuis l'extension des terrasses.
Le collectif de riverains auquel elle appartient a saisi la justice. Sans succès, leur avocate Aurélie Gillet-Marta.
On est dans le flou artistique le plus total. Il faut quand même savoir que l'article 2 de la charte qui a été mise en place par la mairie de Paris se dégage de toute responsabilité en cas d'accident survenu sur la voie publique. Il ne reste plus que ces exploitants, finalement, qui font la loi. Et c'est d'ailleurs la difficulté qu'on a eue à saisir le tribunal administratif, puisque nous n'avons pas de décision d'acte administratif.
Et même si à Paris, les salles de café et de restaurants ont pu rouvrir le 15 juin, ces extensions de terrasses sont autorisées jusqu'au 30 septembre.
Une nouvelle journée de protestation des soignants annoncée pour le 30 juin, mardi prochain, alors que le Ségur de la Santé touche à sa fin. Hier, une négociation sur les salaires des médecins hospitaliers a tourné court.
Il est 7h09 aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle a repris de plus belle.
Avec un Donald Trump qui a repris, lui, ses thèmes de prédilection, un déplacement à la frontière avec le Mexique pour parler immigration. Le patron de la Maison-Blanche a ensuite rassemblé ses troupes dans une église de Phoenix, Loïc Glory. Thank you very much.
Une église évangélique de 3000 places, des étudiants acquis à sa cause, beaucoup de casquettes rouges, mais très peu de masques. Donald Trump, hier soir, s'est refait une santé après le fiasco de Tulsa.
Did anybody see my speech the other night on Saturday night?
Est-ce que vous m'avez écouté samedi dernier, plaisante le président américain, provoquant des hurrahs à chaque fin de phrase. 1h30 de discours pour brasser large, la Cour suprême, la conquête de Mars, le virus chinois, dit-il, ou la vitesse de ses missiles et bien sûr son mur à la frontière mexicaine. Vous savez, vous travaillez quelque part, souvent vous avez un ordinateur. En 2 semaines, il est déjà vieux. Il y a 2 choses qui ne seront jamais obsolètes, une roue et un mur. Donald Trump est en campagne et il s'en prend à son adversaire désigné de novembre prochain, Joe Biden.
Could you imagine if Sleepy Joe ever became president?
Est-ce que vous imaginez si Joe l'endormi devient un jour président? Ce serait le désordre dans le pays, il détruirait tout. C'est Joe l'endormi. Et où est-il d'ailleurs? Où es-tu, Joe? Où es-tu? Un Joe Biden certes beaucoup plus discret mais bien positionné dans les sondages et qui profitait hier pour la première fois lors d'une levée de fonds virtuelle de l'ex-président Barack Obama. New York, Loïc Loury, France Inter.
Les États-Unis, auprès de 800 nouveaux décès dus au Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Et en Allemagne, on reconfine après la découverte d'un foyer de contamination dans un abattoir à l'est du pays. 640 000 habitants de 2 cantons invités à rester chez eux durant une semaine. En France, 57 décès enregistrés hier, 682 patients en réanimation et un bilan global qui atteint 29 720 morts. L'épidémie recule donc dans l'Hexagone, mais le retour à la normale se fait attendre sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Normalement, cette saison, les pèlerins sont très nombreux, trop parfois même, mais cette année, dans le Limousin, le calme est garanti. Jérôme Osterman.
Flavignac, en Haute-Vienne, est un point de passage de l'une des 4 voies historiques, avec, de mars à juin, une affluence importante de pèlerins. Mais en cette période épidémique, c'est bien différent selon le maire Christian Desroches.
On a environ 200 pèlerins qui s'arrêtent sur cette période. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons seulement 5 pèlerins qui se sont arrêtés dans notre refuge. Les pèlerins hésitent pour se lancer, hein, puisque en amont de Flavignac, les refuges sont fermés. Et en aval également.
Ouais, de la Creuse jusqu'en Dordogne, sur cette voie en partance de Vézelay, comme à Saint-Léonard-de-Noblat. Jean-Bernard Bonnet, le secrétaire du refuge.
Nous avons essayé de les accueillir au refuge. Malheureusement, on est obligé de désaffecter à chaque passage. Les contraintes sont telles que nous avons décidé d'arrêter cet accueil.
Ouais, et la situation est la même sur la voie de Rocamadour. Le gîte communal de la Selle est fermé. Celui de la Mérelle à Collonges-la-Rouge n'ouvre pas non plus aux pèlerins. Pèlerins qui, comme ailleurs, sont très peu nombreux. Cette année a passé, selon François Serac, le maître des lieux.
Devant la maison, on en a vu 3 qui sont passés ou 4. Enfin bon, par rapport aux autres années, ça va être infime.
Ceci dit, à Limoges, l'office de tourisme voit un peu plus de pèlerins passer ces derniers jours, sachant qu'en ville, les sœurs franciscaines font figure d'exception. Pour les pèlerins, elles ont rouvert leur refuge, mais pas tous les jours et pas au complet, afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires.
Le reportage de Jérôme Osterman de France Bleu Limousin, c'est donc le bon moment pour ressortir ses chaussures de rando, Nicolas.
Merci Agnès Soubiran.